Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Non, je ne suis pas là pour unir Luc et Nathalie. Mais c'est notre sujet ce matin quand même, sujet du vendredi. Mariage pour la vie, est-ce que c'est vraiment possible?
Comme dirait Richard Marquis, tellement. Tellement.
Nathalie.
Ah oui, tellement. Non, mais quelle musique douce à nos oreilles ce matin. Un beau sujet en ce vendredi. Mariage pour la vie. Je dis oui, je le veux. Moi, je crois aux vertus du mariage, en ses possibilités. Faut que je vous confie une chose. J'ai une vision plutôt idyllique et romantique du mariage. Lorsque j'étais plus jeune, j'étais fortement opposée au mariage. Mais de plus en plus, je flirte avec cette idée qu'un jour, je pourrais peut-être me marier.
Oh. Calme-toi, là.
Oui, calme-toi, là. Non, effectivement... Je souhaiterais peut-être un jour me marier parce que c'est une institution qui a été branlée, faut dire, par le passé. Nos parents se sont mariés parce que le curé du village mettait de la pression. Mais aujourd'hui, on se marie pour amour. On se marie pour les vraies raisons. Et le mariage connaît un certain regain. Je lisais qu'en 2022, on prévoit 32 500 mariages au Québec contre 22 500 en 2019. Alors, Je salue tous ceux et celles, et en particulier les jeunes, il y a de plus en plus de jeunes qui se marient. Alors, je salue tous ces gestes qui sont posés pour unir nos destinées. Il y a quelque chose d'absolument grandiose là-dedans. Alors, Luc, de grâce, répète après moi, oui, je le veux.
Ah, la Moses. vous savez pourquoi on parle de ça? C'est parce que ce couple qui on a parlé dans les journaux.
Oui,
là,
60 ans.
60 ans, puis ils habitent deux logements. Ils ont déménager d'une maison en commun à deux logements avec une porte qui les sépare, puis sont plus heureux que jamais. Et donc, ils font la démonstration que moins tu partages, plus que tu as de chances
de réussir.
Et d'ailleurs, tu sais, ça me semble tellement évident, tu sais, que les risques majeurs dans un couple, là, c'est le partage. Mettons, le partage du lit déjà. Ça, c'est un risque qui va en croissant avec le temps, là. Plus tu vieillis, plus c'est dangereux. Les insomnies, les ronflements. Pas facile, le partage du lit. Deuxième affaire, le partage du frigidaire. Si on n'était pas habitué depuis des années, là, ça aurait que ça marche pas. Plus ça va, moins ça marche. Le partage de l'auto. Hey, s'il fallait partager nos ordinateurs, on n'aurait aucune chance que ça marche. Avant, ça, je te jure, il y a 15 ans, là, on partageait un ordinateur, il y avait ou 20 ans, un seul ordinateur dans la maison. Non, maintenant, les statistiques sur le mariage mentent. Parce que en fait, il y a beaucoup de couples qui vivent séparés dans la même maison et qui ne partagent rien. Et c'est le bungalow de maison avec ses deux chambres séparées, avec les deux, une auto pour chaque couple, avec une télévision pour le partage de la télévision. C'est le partage de télévision,
ça ressemble à des colocs. Ça ressemble à des colocs.
Mais ça, c'est une source de conflit énorme, le partage de télévision. Peut-être les 5-6 premières années, tu fais des efforts, mais à un moment donné, ça peut pas marcher. Non, pour moi, le couple idéal, c'est le couple de la petite vie. C'est deux personnes...
Dormir debout?
Non, c'est ça. Ah, déjà. Mais non, deux personnes profondément dysfonctionnelles qui sont mieux ensemble que s'ils étaient chacun dans leur hôpital psychiatrique.
Ah ben, mon Dieu, c'est intense.
Attends un peu, là.
Oui,
c'est drôle.
Le moment dans la petite vie, là,
oui.
Tu la sors du couple, elle va pas loin, là. Puis papa...
OK, donc ta conclusion, si on est en couple marié, c'est que ça va, on peut pas aller ailleurs.
Non, mais tu sais, ils ont fait des efforts pour être ensemble, mais et ça donne ce que ça donne. Regarde, ce couple dans Petite Vie prend source dans nos familles québécoises. Le bonhomme qui a pas ouvert la bouche depuis 30 ans dans son sofa, puis la bonne femme qui a fait une sortie par semaine pour aller à l'épicerie, de la sacoche chez les genoux, puis toujours la même liste d'épicerie dans sa sacoche pendant 30 ans. Et c'est ça, là. C'est ça qui fonctionne.
Mais c'est un modèle qui est de plus en plus révolu. Parce que moi, c'est le modèle de mes parents d'une certaine façon. T'sais, on se mariait, on avait des enfants, puis la mère restait au foyer. Et puis c'était pas toujours agréable de se marier. Puis la pression que mettait l'Église sur les couples pour se marier. Les vieux garçons et les vieilles filles avaient la vie dure à une certaine époque au Québec. Là.
Oui.
Mais ça a tellement évolué qu'aujourd'hui, le Québec est devenu champion mondial de l'union libre, champion canadien assurément, mais mondial également. L'autre chose, vu que tu as connu une mauvaise expérience en matière de mariage, c'est évident que tu n'en feras pas son apologie. Moi, je pense à tous ceux et celles qui se sont mariés, obligés de partager le fonds de pension, par exemple. Mettons que ça refroidit les ardeurs un peu sur le mariage. Mais je trouve ça absolument extraordinaire que des jeunes aujourd'hui, et de plus en plus jeunes, reconnaissent les valeurs liées à la tradition, parce que le mariage réfère une certaine tradition. Et ce que ça dit, c'est que on peut construire à deux quelque chose d'extrêmement fort.
Mais t'as raison d'utiliser le mot oui. construire, parce que c'est directement oui. lié à la crise du logement, Nathalie. C'est-à-dire que plus... les statistiques du mariage, là, dans les années 90, il y avait 50 à 60 % des couples qui se divorçaient sur une période de 30 ans. Et maintenant, c'est moins. Ça a diminué, on est à peu près autour de 30 %. Sauf que, quand tu regardes les statistiques de façon plus précise, il y a beaucoup, beaucoup de moins de monde qui se mettent en couple, mariés ou d'union libre. Alors, ceux qui le font sont vraiment déterminés. Mais c'est lié au logement aussi. C'est lié à la contrainte. Aujourd'hui, vivre dans deux maisons séparées, c'est impossible. C'est absolument impossible. De moins en moins possible.
Oui, mais moi, je salue l'audace de ce couple dont la presse a parlé, Lucie Cyr et M. Loumarie Pilote. Il faut avoir du guts pour faire ce qu'ils ont fait, là. Vendre le condo, puis avoir un appartement. Ils ont fait installer une porte entre les deux logements, puis écoute, ils se voient quand c'est leur temps. C'est merveilleux. Mais un frein au mariage, c'est le coût du mariage. Je lisais, là, dans le magazine Véro, le coût d'un mariage moyen au Québec, entre 20 000 et 35 000 $. Un gâteau de mariage, ça coûte en moyenne 1 500 $.
Hein?
Imaginez.
Mais quoi?
Oui! 1 500 $ en moyenne pour
mais, un... Nathalie, on se porte une business.
Hey, 700 millions. Hey, non, mais Luc, tiens-toi bien. 700 millions de dollars, c'est ce que l'industrie du mariage a généré en cette année. 700 millions, imagine. Incroyable. C'est sûr qu'il y a eu la pandémie, puis il y a plein de couples qui devaient se marier qui ne sont pas mariés. Puis, savez-vous quoi? Je soupçonne que entre le 20 et 35 000, il y a bien des couples qui vont dire, ben voyons donc, je peux pas me marier avec ce budget-là. Il y a des couples qui se marient et puis que ça coûte une fortune, toi, une fortune.
Ouais, je pourrais t'en parler. Ouais.
Non, mais c'est un beau sujet. Je crois qu'il faut en parler pour réhabiliter les vertus liées au mariage. Puis en même temps, j'ai pas de lunettes roses, mais je me dis, il y a quelque chose d'extrêmement fort qui dépasse, qui va au-delà du serment que font deux personnes qui sont unies,
soit
devant
l'Église. Mais c'est pas juste le mariage, c'est la vie à deux, tout court.
Oui, oui, mais c'est ça.
Qu'on soit marié ou encore un million de faits.
Mais moi, j'ai la même... Je suis aussi ébahi que Nathalie, mais pour d'autres raisons, par ce couple qui a décidé de vivre avec juste une porte entre leurs deux, chacun leur frigidaire. D'ailleurs, chacun leur frigidaire. Dans un frigidaire, il y a de la salade. Dans l'autre, il y a de la viande. Tu veux de la salade, tu vas chez la madame. Tu veux de la viande, tu vas chez le gars. Mais à partir du moment où t'as trouvé cette solution-là, tu dis, OK, regarde, moins on partage, mieux c'est. Mais on pourrait peut-être rajouter d'autres personnes dans le couple. Une troisième porte, une quatrième porte, une cinquième porte.
Ben c'est compliqué ton affaire.
Non, moi, ce que je dis, c'est que tant qu'à vivre vraiment séparés, chacun son auto, chacun son ordinateur, chacun son frigidaire, chacun sa TV, mais à un moment donné, si ça suffit juste d'ouvrir des portes dans les murs, peut-être que ce serait plus le fun si on était quatre, cinq, une communauté. Pourquoi pas?
Ah bon, d'accord.
On réinvente
complètement.
Peut-être
le modèle du... Non, mais c'est peut-être le modèle du futur, Luc. C'est peut-être le modèle du futur parce que être en couple et vivre ensemble, c'est pas un automatisme. D'ailleurs, ce qu'a réalisé ce couple de la presse, c'est de plus en plus fréquent. On a fait un segment dans l'émission avec Sylvie Lavallée là-dessus. Et il y en a pour qui c'est salutaire. Et là, on pourrait faire un segment, là, puis ça serait intéressant, le nombre d'auditeurs qui pourraient écrire, Paul, le nombre de couples qui font chambre à part.
Ben oui.
Puis t'as tellement raison, Luc. Ça, c'est comme le syndrome des graines de toast dans le corso de margarine. Écoute, ça tombe ses nerfs le matin quand tu te... ou dans le pot de mayonnaise. Alors, achète deux pots de mayonnaise ou achète deux corso de margarine.
C'est
mais ça, c'est salutaire dans un couple. Et moi, je suis de celle, oui, qui plaide pour la chambre à part. Pourquoi pas?
On s'arrête là-dessus.
C'est excitant ce matin, n'est-ce pas?
Ouais, non, mais oui. Luc veut pas vivre en couple, il est prêt à vivre dans une commune. Essayons de comprendre. En retour, c'est le rapport de la commission.
Curieux ou fan fini de hockey?
Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
La commission Normando-Ferrandaise.
Rapport des commissaires, c'est Luc qui commence.
Bon, est-ce que Elon Musk va entraîner Twitter vers la faillite? Soit c'est un génie, puis là on commence à penser que c'est moins en moins possible, soit c'est vraiment un tapon. Puis il a vogué sur ses succès passés, mais il a tout mis en place pour entraîner Twitter vers un échec en une semaine. C'est extraordinaire. C'est un imbécile.
Le gars débarque le vendredi, puis il est sur le bord de la faillite après.
C'est incroyable. D'ailleurs, il le déclare lui-même. Il déclare lui-même qu'il y a une possibilité de faillite.
Ouais.
Donc, premièrement, il a perdu tout ce qu'il ne faut pas faire. Il a perdu des leaders dans leur domaine, dans les missions de base de Twitter. Cybersécurité, protection des données, au point où l'Agence fédérale de la concurrence a rappelé que la plateforme avait signé des ententes avec l'Agence fédérale de concurrence et devait protéger les données. Donc, même l'Agence fédérale s'inquiète. Il a renvoyé par erreur plusieurs employés qui étaient nécessaires à ses fonctions et est obligé de les rappeler. Pas un, pas deux, pas dix, pas cent, plus de 1000. Il a rappelé des employés en télétravail en leur disant maintenant, dorénavant, vous allez travailler 40 heures par semaine, il va en perdre un méchant pourcentage. Il a perdu des millions d'utilisateurs. Il pourrait perdre des revenus importants. Le cabinet spécialisé dans le placement publicitaire a calculé que Twitter pourrait perdre jusqu'à 39 % des revenus publicitaires si on cumule ensemble la désaffection pour la plateforme puis la récession. Fait que Elon Musk, il reste à vérifier si c'est un génie.
On en doute.
Oui, hein? Élection américaine. La débandade des républicains peut être résumée, je pense, en une déclaration. Je me rappelle même plus où je l'ai prise, mais elle n'est pas de moi. Je pense que c'est sur le blog de Jocelyn Etu que j'ai vu ça, ou c'est lui-même. Herschel Walker.
Richard Etu, tu
Richard
veux dire.
Richard Etu, oui. Moi, puis les noms, c'est effrayant. C'est effrayant. Bon, en tout cas, toujours est-il que là, il reste une élection. Tu sais, Herschel Walker contre Raphaël Warnock en Géorgie. Il y a un rappel de l'élection. Il y a une façon facile pour les républicains de perdre. Il suffit que Trump déclare qu'il va se lancer à la présidence le 15 novembre. S'il se lance à la présidence le 15 novembre, c'est les démocrates qui vont gagner la Géorgie. Puis là, ils vont perdre le Sénat. Fait que là, on est dans la situation, c'est faustien, là. On est dans un drame faustien où Trump pourrait choisir de nuire au Parti républicain en se présentant à l'élection. Puis en disant, c'est après moi le désert. Et il se présente, il fait gagner les démocrates. Les démocrates s'emparent du Sénat. Ça va être tellement intéressant à voir, plus intéressant qu'un match de football serré ou un match de basketball serré. Marlon Engelhorn, est-ce que vous connaissez ce nom-là?
Non.
Eh bien, c'est une... Marlon Engelhorn, c'est la descendante du grand chimiste qui a fondé BASF, une entreprise qui vaut 4,5 milliards de dollars. L'héritière est morte à 95 ans. C'est elle la dernière héritière. On ne sait pas combien elle vaut, mais on sait que c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Elle a décidé... Savez-vous à qui elle va donner l'argent? Elle va donner l'argent à l'impôt.
Hein?
Oui. Elle a décidé qu'elle est traductrice, rédactrice... Elle retourne travailler. Elle veut pas garder une scène. Elle donne l'argent à l'impôt. Puis elle s'en prend à tous les milliardaires qui donnent l'argent à des causes choisies, comme Patagonia, par exemple, qui a choisi de donner tout son argent. Elle a dit, il y a deux raisons pour lesquelles elle est pas d'accord avec ça. Premièrement, ils choisissent les causes. Donc, c'est pas nécessairement la misère humaine. Ça peut être des œuvres d'art. Ça peut être trois, quatre affaires. Patagonia le donne pour l'environnement. Elle a dit, qui me donne le droit de choisir qui souffre le plus? C'est l'État qui devrait prendre ce choix, prendre cette décision-là. Et deuxièmement, ils gagnent une partie de l'argent avec des crédits de charité, c'est-à-dire avec un retour sur l'impôt là, pour les années à venir. Et elle a dit ces deux décisions-là sont des décisions antisociales. Retenez ce nom-là, Marlon Engelhorn. Maxime Pinault, je demain ce matin dans la presse, il faut taxer. Je le trouve très courageux. Vous savez que c'est l'ex-maire de l'Outaouais, la région Gatineau. Gatineau dans la région d'Outaouais. Donc, ce qu'il dit, là, c'est que une taxe de 8 % à la ville de Montréal rapporterait 296 $ à peu près de plus. Donc, tu vas payer 296 $. Mais il faut mettre ça en comparaison avec le fait que pendant 15 ans, les propriétaires se sont hyper enrichis. Les taux d'intérêt ont diminué. Or, les hypothèques ont donc coûté moins cher et les logements ont rapporté beaucoup plus d'argent. Ça, c'est une chose. Mais d'autre part, personne ne veut avoir des coupures de services. Tout le monde demande plus de services, plus de déneigement, plus de centres sportifs, plus d'aréna, plus de tout. Alors, il dit, la vérité, c'est que ce n'est pas trop et en particulier dans ce contexte actuel. Et en plus, on calcule les chèques de retour d'impôts, les crédits que le gouvernement envoie. Deux chèques pour une famille où les deux personnes gagneraient, mettons, près de 100 000 $ ça équivaut, en argent non imposable, à 2 300 quelques $ Mais compare ces 2 300 quelques $ avec le 296 $ de l'augmentation de la taxe.
Nathalie.
Mon rapport a un thème cette semaine, le combat des chefs. Le premier combat, c'est celui entre François Legault et Justin Trudeau. Vous avez peut-être assisté à ce qui est devenu presque personnel entre les deux hommes. Cette semaine, la tension a monté d'un cran lorsque M. Trudeau a reproché à Québec d'envoyer des chèques aux Québécois, alors que la province, comme le disait notre ami Maurice Duplessis, demande à Ottawa d'augmenter ses tarifs en santé. La réplique de M. Legault a été cinglante. M. Trudeau pense qu'il est meilleur que Christian Dubé. Conclusion, ne pas inviter les deux hommes dans la même cuisine parce que les couteaux volent assez bas comme ça. Un autre combat, celui-là d'une autre intensité, un combat qui s'apparente à celui des titans, le combat de Xi et Joe. Joe Biden et le président chinois, ils sont engagés dans un contentieux de fond qui nous rappelle à quel point la qualité de la relation entre les deux plus grandes puissances du monde conditionne l'humeur de la planète. C'est absolument fascinant à quel point les deux grandes puissances nourrissent cette tension mutuelle et sur toutes sortes de sujets. Là, il y a évidemment la Russie, Taïwan, la lutte au changement climatique. Les deux hommes vont se voir la semaine prochaine à Bali. Ils vont, et là je cite la réponse officielle de l'administration Biden, l'objectif du gouvernement américain est de gérer de manière responsable la rivalité entre la Chine, c'est ce qui s'appelle se chicaner avec retenue. Un combat à venir et qui promet, tu as référé tantôt, Luc, celui de Donald Trump contre Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride. Il n'y a rien encore de confirmé, mais tout porte à croire que Donald Trump pourrait revenir dans la course pour la présidentielle de 2024 et DeSantis lever la main. Est-ce que ce combat à venir va sonner l'hégémonie, la fin de l'hégémonie de Trump sur le Parti républicain? Est-ce la fin annoncée du culte voué à l'ex-président? Dépeint par certains analystes comme le nouveau Biggest Loser de la politique américaine, j'adore l'expression, c'est un combat qui sera sans pitié. Et un autre combat, c'est celui qui touche le Parti libéral du Québec après le départ de Dominique. Le PLQ a salué hier l'arrivée d'un nouveau chef, Marc Tanguay. Bien que chef intérimaire, il aura livré un combat que peu de chefs dans sa situation avant lui ont eu à livrer. Il devient le chef d'un parti dont on questionne la pertinence. Un parti, on l'a dit, qui devra se reconstruire sur le plan des idées, sur le plan financier, sur le plan de l'organisation. Personne, évidemment, ne peut prédire qui sera le futur chef, mais clairement, le PLQ est appelé à livrer la bataille de sa vie, chers amis. Voilà.
Merci. Bon week-end. Bonne journée de pluie. On se retrouve lundi.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.